dans le camping, les soirées du lundi sont dignes de celles d'un samedi soir.
C'est à la France que fut confiée l'organisation du 10e rallye international de camping.
La zone la plus touchée, c'est celle du camping.
Radio Camping Paris.
C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Il pèse 76,5 milliards de dollars, ce qu'il placerait s'il était un pays au 65e rang des pays les plus riches du monde. Je veux parler de Bill Gates, bien sûr, le créateur de Microsoft et plus grande fortune de notre petite planète. Une fortune que l'ancien grand patron a décidé de dédier depuis plusieurs années aux autres, à ceux qui en ont le plus besoin, à travers une fondation qui porte son nom et celui de sa femme, Bill et Melinda Gates. Ainsi, depuis plus de 15 ans, Bill Gates et sa fondation distribuent la Microsoft Money pour la recherche contre le paludisme, pour l'aider à lutter contre le sida, mais aussi pour financer l'Organisation Mondiale de la Santé, un pouvoir énorme qui permet à Bill Gates d'influencer, sans penser à mal, la politique sanitaire de certains pays. Et comme Batman a peur du pouvoir de Superman, voyant en lui un dieu face à qui l'homme est dépendant de la simple bienveillance, le pouvoir de Bill Gates fascine et inquiète, pourtant sans vraie raison apparente. Oui mais voilà, tout philanthrope qu'il est, Bill Gates, comme Superman, fait parfois des erreurs en voulant faire le bien. Au début de l'été, Bill Gates s'est engagé à lutter contre la faim en Afrique, en faisant don de poules aux habitants de plusieurs pays. Un geste qui part d'une bonne intention mais qui a heurté la fierté du ministre de l'Agriculture de la Bolivie, qui s'est dit outré que l'Américain voit la Bolivie comme un pays si peu développé. Mais n'est-ce pas là le problème de chaque action humanitaire finalement, cet équilibre entre la bienveillance et l'assistanat dégradant, vouloir aider ceux qui en ont besoin sans pour autant se placer en position de sauveur providentiel sans qui rien n'est possible. Rappelez-vous que certains versants de la colonisation à l'époque partaient aussi de bonnes intentions. Je vous laisse donc sur cette réflexion, chers auditeurs, et rappelez-vous que ce n'est pas en donnant un poisson à un homme que vous le protégerez de la faim, c'est en lui apprenant à pêcher.
Radio Camping Paris. C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h sur le 93.9.
On ne parlera ni de poules ni de pêche ce soir dans Radio Campus Paris, dans Radio Camping Paris, mais d'agriculture urbaine avec Augustin Lobu, bénévole et stagiaire à l'association La Sauge, une association qui a pour ambition de permettre à tout le monde, vous comme moi, de jardiner 2 heures par semaine, même en habitant à Paris. Ils organisent chaque semaine, tout l'été, des ateliers avec d'autres organisations. Augustin nous détaillera tout ce programme et le but de ses actions. Je vous en parlais hier dans une chronique aux côtés de Martin. Le FNAC Live Festival a débuté ce mercredi et se poursuit jusqu'à samedi. On retrouve par téléphone en direct de l'hôtel de ville Simon qui nous racontera comment ça se passe sur place. Et enfin, comme chaque jour dans Radio Camping, nous conclurons notre émission par notre fiction de l'été écrite par le merveilleux Maxime. Alors surtout, restez bien avec nous sur le 93.9 pour Radio Camping.
Radio Camping Paris.
Démocratiser la pratique de l'agriculture pour tout le monde, vous comme moi, en ville, pour les habitants de Paris, c'est l'ambition de l'association La Sauge, une mission que l'association propose comme une réponse à la transition écologique, mais aussi comme un moyen de créer du lien social. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Augustin Lobu, bénévole au sein de l'association. Bonsoir,
bonsoir.
Augustin. Bénévole et stagiaire, ancien stagiaire.
Bénévole en fait, quand j'ai découvert l'association il y a 6-8 mois de ça, je me suis bien engagé auprès d'eux, et puis comme je suis étudiant et qu'il me fallait un stage pour cet été et que leur activité correspondait à ce que je faisais et à mes études...
Ça rentrait dans un parcours un peu logique.
Assez, ouais. Je me suis engagé un peu plus... Véritablement, je suis devenu stagiaire là, pour les 4 mois d'été à La Sauge.
Très bien. À mes côtés également, en plateau, Anna de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Anna.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Ça va et toi ?
Ben impeccable, ça va toujours. Alors je disais, Augustin, vous êtes bénévole au sein de l'association, vous êtes stagiaire pour l'été. Comment est-ce que vous avez découvert l'association La Sauge ?
Alors La Sauge, c'est la société d'agriculture urbaine, généreuse et engagée.
Ah, parce que l'acronyme a un sens aussi, c'est pas uniquement une plante. La Sauge est une plante aussi.
La Sauge est aussi une plante, c'était pour faire le lien.
C'est pour faire le lien.
Et ils ont organisé à la rentrée 2015 un festival autour de l'agriculture urbaine qui s'appelait Éclosion Urbaine et qui présentait des initiatives parisiennes et des manières un peu différentes de faire. Et donc il y avait une journée professionnelle le vendredi et le week-end c'était ouvert au grand public. Donc en tant que grand public, je m'y suis présenté et là j'ai rencontré l'équipe de La Sauge, leur travail m'a plu et c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis retrouvé à travailler à leur côté.
Voilà, c'est de voir le travail que proposait l'association qui vous a donné envie de vous engager, ou ça part d'un truc que vous pratiquez peut-être depuis plus longtemps ?
Moi je suis en études d'urbanisme, donc je me suis toujours intéressé à la ville, aux questions qui tournaient autour de... des problèmes d'aménagement de l'espace, de comment peut-on contrôler la circulation des individus en bloquant, en fermant. Et je me dis qu'avec la végétalisation, qui n'est pas un très joli mot, mais avec le vert en tout cas, ou l'espace public de manière plus générale, il y a beaucoup de choses à faire, à travailler de manière à créer une ville vivable.
Une ville plus agréable.
Bah, une ville, une vraie ville.
Une vraie ville. On va présenter un petit peu l'association qui existe depuis combien de temps.
L'association, elle est assez jeune. Elle a moins de 2 ans, plutôt 1 an et demi. Et en fait, elle a démarré... À la base, c'était une bande de copains qui cultivaient sur la petite ceinture de manière peu contrôlée, disons, par les autorités. Mais c'était très sympa et ça a suscité pas mal d'engouement autour d'eux. Et puis, de fil en aiguille, ils se sont dit on va se monter en association, on va essayer de donner un peu de corps au projet. Et puis, le but du jeu, c'est quand même de créer une vraie activité économique, ce qui commence à marcher, et de dégager des salaires pour les personnes qui vont travailler à plein temps dans l'agriculture urbaine. Montrer que c'est une solution possible pour faire de l'économie, du social, et rendre la ville plus agréable.
Ouais, c'est pas uniquement un loisir, en fait, c'est ça.
Alors ça part un peu du
ça
côté...
Part d'un envie, ça part d'une envie aussi de se faire plaisir en jardinant, mais il y a aussi une ambition de montrer que ça fonctionne réellement.
Exactement.
La SAUGE veut rendre plus accessible le jardinage et l'agriculture pour tous. On a dit, c'est vrai qu'à Paris, c'est un peu difficile d'avoir son petit jardin dans sa cour, déjà parce qu'on n'a pas tous la place d'en avoir un.
Tout à fait.
Est-ce que c'est aussi ce à quoi participe la SAUGE, c'est de proposer des espaces aux gens?
Complètement. La SAUGE, elle s'est emparée de plusieurs espaces parisiens assez clés. Pour citer le toit du Point Éphémère, qui est un bar surbranché sur le canal Saint-Martin. Et elle a posé elle a aidé à aménager l'espace végétal de cet endroit et donc de le transformer non pas seulement en un bar où on écoute de la musique et on boit des coups, mais aussi en un espace où on va avoir une activité. Donc on pourrait jouer au domino ou au pulse, mais on pourrait aussi faire de l'agriculture.
C'est vrai.
Et apprendre les plantes. Parce que finalement, on ne connaît pas grand-chose des plantes.
Ouais, surtout à Paris.
Ouais. Et alors, vous faites de l'agriculture urbaine. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est que l'agriculture urbaine,
pardon. Alors, justement, je m'attendais un peu à cette question. L'agriculture, urbaine ou pas, il faut le repréciser, il faut donner la définition de ce que c'est l'agriculture, parce que tout le monde peut se perdre dans ce mot. L'agriculture, c'est l'aménagement des écosystèmes afin de satisfaire un besoin alimentaire. Donc c'est quelque chose de très simple, c'est juste façonner l'espace qu'on a autour de nous pour en faire ce qu'on veut. Donc c'est la maîtrise des plantes, c'est la maîtrise des conditions des plantes, donc pour l'eau, pour le soleil, pour ce qui va entourer les plantes, ce genre de choses. Maintenant,
Et c'est pas forcément biologique l'agriculture urbaine ?
Alors, l'agriculture, c'est ça, c'est l'aménagement. Après... Ce qu'on appelle biologique de nos jours en France, en ce moment, dans les médias, c'est une agriculture qui va utiliser zéro produit issu de laboratoires chimiques ou créé de manière artificielle afin de donner aux plantes tout le confort nécessaire pour leur croissance. Quand on parle d'agriculture biologique, ça veut dire au lieu d'utiliser un engrais chimique fabriqué par un laboratoire, on va utiliser... du purin d'ortie, du crottin de cheval, de la terre amendée ou des choses qu'on aura fabriquées à partir de la nature. En fait, l'agriculture biologique, c'est pouvoir faire de l'agriculture dans son champ, dans sa parcelle, sur ses terres, mais en n'allant jamais chercher plus loin que ce qu'il y a sur ses terres. On n'importe rien, on se sert de tout ce qui est sur place.
Et là, c'est ce que vous faites, la SAUGE ?
Alors, pour terminer la définition de l'agriculture urbaine, donc l'agriculture urbaine, c'est l'agriculture dans l'urbain. Et l'urbain, c'est quoi? Selon la définition de l'INCE, c'est une continuité du bâti sur 200 mètres. Donc dès que deux bâtiments sont espacés de plus de 200 mètres, ça y est, on est dans le rural. C'est une définition assez large, mais ça permet de dire la chose. Donc l'agriculture urbaine, c'est l'agriculture qui est faite dans ces espaces.
Qui est faite pour réaménager ces espaces.
Alors nous, oui, bien sûr, on fait de l'agriculture biologique, dans le sens où on n'utilise pas de produits chimiques. Après, les conditions de croissance à Paris, enfin, la terre n'est pas toujours bonne. Donc, très souvent, il faut apporter. Et puis, souvent, on commence sur le béton. Donc, on ne va pas jeter une graine dans le béton. Il faut commencer quelque part. Et il y a tout un système qui existe et des circuits pour justement se servir des déchets de la ville ou de déchets qui sont pas très loin pour en faire une matière première, pour faire de l'agriculture, pour faire pousser des choses, quoi.
Ouais. Et du coup, comment est-ce que vous avez trouvé votre terrain pour pouvoir jardiner à Paris ?
Alors, c'est...
Parce que vous l'avez dit, on commence sur le béton. Du coup, il a fallu peut-être construire des espaces, carrément.
Alors au début, comme je vous l'ai dit, les gars de la SAUGE, et je leur fais un gros big up, ont commencé de manière un peu illégale sur le terrain de la petite ceinture. Et puis, petit à petit sont officialisés et par relation, par copinage et par intérêt, ils se sont greffés avec d'autres groupements qui avaient intérêt à avoir des espaces plus verts, comme le Grand Train à Paris, qui est un grand bar éphémère qui existe depuis maintenant 2 ans. Et donc, il y a une bonne relation entre le Grand Train et la Sauge qui dispose d'espaces qui étaient anciennement des friches, des rails avec des caillasses, il n'y avait rien, et qui a été transformé en, peut-être pas en jardin miraculeux, mais en potager avec des plantes qui poussent, qu'on mange, quoi.
Et une fois qu'on les a, ces espaces, il faut aussi donner envie aux gens de venir jardiner, parce que peut-être que tout le monde n'a pas spécialement envie. Est-ce que vous accompagnez aussi les gens qui sont peut-être curieux, mais qui ne savent pas faire? Parce qu'à Paris, j'imagine qu'on ne sait pas spécialement jardiner, pour en quelque sorte initier les gens.
Alors, il existe plein de méthodes pour rendre curieux les gens. Ce qu'il faut, c'est leur sourire, leur proposer une activité qui va leur plaire, et puis peut-être... essayer de marquer plus une rupture entre le côté agriculteur, paysan, les mains dans la terre, toutes les images un peu clichés.
Il y a encore beaucoup ces clichés en tête, surtout
un agriculteur, surtout à Paris. Bon bah voilà, déjà quand on est en province,
Quand on descend 200 km, déjà on est un agriculteur.
Voilà, donc le but du jeu, c'est de transformer aussi un petit peu l'image de l'agriculture et de rendre ça un peu sexy. Et puis en fin de compte, on pourrait le prendre par n'importe quel bout, mais le fond du message, c'est quand même que c'est pour créer de l'alimentation, quoi, et ça reste peut-être notre troisième besoin après respirer et boire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier.
Parce que du coup, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on va aller jardiner des produits qu'on va consommer, soit qu'on va garder pour nous, c'est aussi un peu plus d'indépendance déjà, et puis le plaisir de consommer ce qu'on a fait pousser.
Alors l'indépendance, peut-être pas, parce que pour une ville comme Paris, qui comporte avec sa banlieue peut-être, 11-12 millions d'habitants, nourrir Paris sur les terrains de Paris, c'est quelque chose qui est impossible. Non, c'est impossible. Et puis il faut pas oublier, les villes se sont créées au milieu des champs, et les champs existent autour des villes. Et s'il y a un amas de personnes dans les villes, si les villes existent, c'est bien parce qu'on a réussi à domestiquer la nature à un moment, qu'on a eu des stocks et que on a arrêté d'être nomades, on est devenu sédentaire, on s'est posé. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de faire comprendre aux gens d'où viennent les aliments. Et ce qu'on dit souvent, c'est de la fourche à la fourchette. Quand vous allez acheter un paquet de jambon Herta, est-ce que vous savez Où a été élevé le porc, qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a vu dans sa vie, comment il a été découpé, comment il a été préparé.
Ça, on ne sait pas.
Moi, je ne sais pas. Voilà. Alors, avec l'agriculture urbaine et les circuits courts, les AMAP, les choses comme la ruche qui dit oui, ou les groupements de quartiers, ou les épiceries un peu spécialisées, ou les magasins comme la Biocoop à la Bastille, tout est tracé. Et puis, même si ça vient de loin, au moins, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on mange, et on sait comment on s'alimente. Et là où c'est vraiment un projet collectif, et il s'agit bien sûr d'un petit groupement de personnes qui font de l'agriculture urbaine et qui développent une niche, c'est que ça concerne l'ensemble des individus de la planète, qu'ils habitent en ville ou pas. En fait, on fait de l'agriculture urbaine, mais on fait surtout de l'agriculture.
Et est-ce que vous n'avez pas affaire à des gens qui se découragent facilement, quand on voit que... Quand on fait mourir une plante, par exemple, ou qu'on ne sait pas arroser une fleur et qu'on se dit « mais non, mais j'y arriverai jamais, j'ai pas la main verte
». C'est un apprentissage. En fait, c'est quand même... on ne le sait pas, mais c'est quelque chose d'extrêmement complexe. On ne connaît pas tout de la nature, on ne connaît pas tout des plantes, et c'est un vrai apprentissage, c'est un métier. Ça ne prend pas du jour au lendemain, il faut faire des expériences, il faut se prendre des barrières, il faut recommencer. C'est sûrement un des métiers les plus difficiles, avec peut-être... le métier de pêcheur ou le métier de médecin, je sais pas, mais c'est des métiers très complexes, et c'est pour ça aussi peut-être que les agriculteurs qui font ça là, je sais pas, depuis les 60 dernières années, se sont spécialisés quelques céréales ou quelques légumineuses.
Et parce que c'était plus pratique aussi.
Et parce que c'est plus pratique de faire en gros une seule chose qu'on connaît bien. Là, quelque chose qui apparaît un peu au grand public, mais qui existe depuis plus d'une trentaine d'années, c'est la permaculture. Et c'est quelque chose d'extrêmement simple. En fait, c'est juste associer des plantes qui vont bien ensemble et qui vont mutuellement...
Qui vont se compenser dans l'environnement.
C'est un win-win, quoi. On pourrait, si c'était du business, on pourrait dire ça à la tomate et le basilic, ils font un win-win ensemble. Quand ils poussent ensemble, ils grandissent bien.
Et alors, plus concrètement, combien de bénévoles participent à l'association ?
L'association La Sauge, à ce jour, doit comporter plus de 400 membres. combien de bénévoles il y a actuellement cet été un peu moins d'une dizaine de stagiaires qui tournent avec les trois acteurs principaux et créateurs de la sauge, qui sont donc Antoine Deral, c'est Sven Deral, Antoine et Robin. Et il y a beaucoup de membres en fait qui viennent ponctuellement lors d'ateliers, lors de chantiers participatifs, lors de montage de petites opérations, ce genre de choses.
J'ai vu sur votre site internet qu'il y avait un chien aussi.
Et un chien
très célèbre au sein de l'association.
Un gros chien très 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 célèbre effectivement.
Et de quelle manière est-ce que les bénévoles participent à la vie du jardin ?
Alors par exemple, on va leur proposer le mercredi après-midi de venir sur leur temps libre pour aller cultiver un peu les plantes avec nous, apprendre 2-3 choses, partager ce qu'eux ils savent, nous leur donner ce que nous on sait. Et puis ce qui est chouette, c'est que comme c'est une association, il y a plein de corps de métiers différents qui s'y retrouvent. Il y a des illustrateurs, des designers, des géologues. En veux-tu, en voilà.
C'est ça aussi la notion de créer du lien social.
Exactement. Et comme dans la permaculture, il y a l'association des plantes pour que ça pousse mieux. Dans le système humain et dans les relations entre humains, il y a aussi une association des gens qui ont un peu chacun leur spécificité, qui s'associent ensemble pour faire du projet et pour créer des choses qui fonctionnent, plus que quand tout est compartimenté.
Et on va continuer de parler de tout ça et revenir notamment sur le programme de l'été de la sauge après une petite pause musicale.
J'ai cherché l'amour dans les yeux des uns des autres, mais aucun n'a fait son lit dans mon nid de chercheuse d'or. Des histoires, des entre-deux, j'en ai eu des tas, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais pas, je m'y attendais pas, je m'y attendais pas. Je me suis débattue dans les sables mouvants, j'ai érigé des remparts. Ils n'ont pas tenu longtemps l'amour sans horizon. Je l'ai vu 10 fois 100 fois, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais pas.
Je suis tombée sur toi.
c'était Cléa Vincent, je m'y attendais pas, sur Radio Campus Paris.
Vous écoutez Radio Camping Paris sur le 93.9.
Nous sommes toujours en plateau dans Radio Camping sur le 93.9 ou bien sur internet radiocampusparis.org avec Augustin Lobu, membre de l'association La Sauge.
Salut.
Re-salut. Et toujours Anna qui est toujours avec moi. On va parler un petit peu de votre programme de l'été. Vous mettez en place chaque semaine plus ou moins des ateliers. Cette semaine par exemple on avait un atelier pour les enfants lundi. Et mardi c'était alors entretien des bacs. J'ai lu ça dans votre planning. C'est quoi entretien des bacs?
Alors en fait on a posé des bacs dans la rue. La mairie de Paris a lancé il y a quelques mois de ça un appel à végétalisation de la ville. Mmh. Ça veut dire qu'il y a une page internet sur laquelle on peut prendre une photo de sa rue. Donner les dimensions d'un bac, on attend la mairie de Paris, 3 mois à peu près, et puis on pose son bac, et ensuite on y met des fleurs, et donc voilà, on s'est installé, on a conquis l'espace public, et on y a planté ce qu'on veut. Nous, on a fait ça à plus grosse échelle, pendant un événement qui s'appelle les 48 heures de l'agriculture urbaine, qui s'est déroulé en avril dernier, qui avait pour but de mettre en valeur toutes les initiatives autour de cette thématique et d'inviter tous les gens qui participent à cette niche à se faire connaître, à se faire savoir et aussi du coup à végétaliser certaines rues. Nous on est allé à la rue de la Fontaine-Roi et à la rue Boulle dans laquelle on a posé une vingtaine de bacs en faisant participer les gens du quartier et donc on y est passé mardi pour regarder si tout allait bien. Déraciner un peu, enlever les mégots, enlever les canettes.
On a vu que c'était un appel à semer, donc c'est 48 heures de l'agriculture urbaine, une manifestation pour verdir du coup la ville. Et il y avait aussi la possibilité de se signaler donc à la mairie et de tracer un peu un parcours des espaces qui étaient végétalisés. Est-ce que ça a bien marché? Est-ce que Paris est plus vert maintenant?
Alors, sur cette opération, ce qui a surtout bien marché, c'était que les gens sont sortis pour aller faire quelque chose. Il y a Pokémon Go qui est sorti il n'y a pas longtemps.
Exactement.
Et bah là, c'était un peu Green Go, quoi. Sauf qu'on l'a appelé autrement. Et ce qui a bien marché, c'était que les gens avaient donc sur leur tablette, sur leur iPhone ou sur leur ordinateur, une carte avec des points. Et puis, ils pouvaient se faire un parcours sur tout le week-end, aller voir des choses qu'ils ne connaissaient pas.
Est-ce qu'il y a des coins dans Paris qui sont plus verdis que d'autres après ça, où on remarque que les gens sont plus enclins à aller verdir? Est-ce que vous avez pu le remarquer ça ou pas du tout?
Ce qu'on a surtout eu l'expérience de faire, c'était de voir les commentaires et les réactions des gens dans la rue qui nous demandaient « mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous mettez du verre ici ?
Laissez-nous du béton !»
Puis il y a des choses intéressantes, c'est que par exemple dans cette rue de la Fontaine-au-Roi, quand il y a peut-être 2 ans, c'était un énorme squat à clochards, les riverains étaient mécontents. C'était un grand bout de trottoir et à part des arbres grillagés, il n'y avait pas grand-chose dessus. Ensuite, ça a été nettoyé, lavé, les murs étaient souvent graffés mais sales. Et puis, il y a 6-8 mois, il y a quelques street artistes qui ont fait des choses plutôt belles. Et nous, on a posé les bacs et derrière, c'est devenu vraiment un gros mur de graff où voilà, il y a beaucoup d'expressions maintenant, il y a du passage. Il y a aussi un groupement de quartier qui a prolongé ce qu'on avait commencé. Donc, on voit qu'il y a une appropriation de l'espace public. Donc ça veut dire plus de gens dehors, plus de gens qui se rencontrent, qui font une activité, parce que c'est chouette d'être dehors, mais c'est chouette de partager quelque chose. Mmh. Et alors même si quelque part, aller faire mettre 2 plants de tomates pour une rue où il y a 500 habitants, c'est quelque chose de très symbolique, c'est aussi quelque chose de très fort.
Il y a une idée de symbole derrière ça, il y aura une autre édition l'année prochaine?
Bien sûr.
Parce que c'était la première là du coup en mars. Et il y aura donc une deuxième édition, ça?
Il y aura une deuxième édition en mars-avril de l'année prochaine, mais vous le verrez tous sur les internets. Les 48 heures de l'agriculture urbaine, échelle nationale. Un petit appel à tous ceux qui pratiquent cette activité et qui ont envie de se...
Manifestez-vous.
Manifester, voilà, de se mettre en avant, de se faire savoir. Contactez-nous sur lasauge.fr, sur Facebook. Et on se met tous ensemble sur ce gros événement et on fait comme la fête de la musique est pour une semaine entière la musique dans toute la France, pareil sur le végétal.
Ce sera la fête du jardinage. Pour revenir sur l'atelier, lundi vous travaillez avec un public enfant également, c'est un genre de sensibilisation pour les enfants, pour leur apprendre un petit peu pourquoi c'est important d'avoir des espaces verts, de jardiner.
Exactement, alors avec les enfants on leur faisait fabriquer des petites boules qui s'appellent des kokedama, qu'on suspend et puis qu'on peut mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Et puis c'est les enfants qui le faisaient. Travailler avec un public enfant, c'est important parce que forcément, ça commence par là. Si dès le plus jeune âge, on est éduqué à faire les bonnes choses et avoir les bons réflexes, peut-être que le monde tournera un petit peu plus rond plus tard, quoi. Mais forcément, la base du monde, c'est les enfants, quoi. C'est eux qui seront là demain. Donc nous, on ne sait pas. Est-ce qu'on sait? Il faut leur dire.
C'est justement, est-ce que vous pensez qu'au niveau éducatif, on devrait avoir des cours de jardinage ou de cuisine comme vous proposez finalement, et pourquoi ?
Pour répondre à cette question, je dirais qu'il faut beaucoup s'intéresser au modèle anglo-saxon qui, à mon avis, est
en avance.
Et pourquoi ?
Différent, en avance, je ne sais pas, mais il est différent. Après, je ne suis pas, peut-être pas très bien placé pour parler d'éducation.
Parce que comment est le modèle anglo-saxon, par
exemple ? Il est diversifié et... Il y a beaucoup d'activités manuelles dès le plus jeune âge. J'ai eu deux expériences dans le système scolaire anglo-saxon. Et en fait, le fait de pouvoir travailler avec ses mains dès le plus jeune âge et puis d'avoir une diversité des apprentissages vraiment bien, bien moins scolaires et rigides que ce qu'on voit en France. On a des maths, du français. Hein. Là, on avait de la course d'orientation, du travail du bois, du métaux. Puis il y avait aussi des sciences dures et puis des sciences humaines. Mais ce grand mix, ça fait que dès le plus jeune âge, il y a moins de différences et c'est moins dégradant de travailler avec ses mains. En France, quelqu'un qui travaille avec ses mains, alors je ne sais pas si c'est un cliché ou pas, mais c'est quand même mieux vu de travailler avec son cerveau qu'avec ses mains. Alors plein de gens pourraient me dire « Ah mais non, pas du tout, c'est pas vrai ». N'empêche que quand moi j'étais au lycée, et j'étais au lycée public et privé, quand il y a des gens qui partaient en CAP, je voyais les regards, je voyais les choses, alors que finalement, ceux qui trouvent le plus
ceux
de boulot maintenant,
travail, hein, c'est très clairement.
Voilà. Donc après, intégrer, il y a de la SVT, mais c'est très scientifique.
C'est des bouquins, quoi.
Peut-être qu'en éducation civique, il y a des choses à faire là-dessus. Ouais.
Parce qu'en fait, finalement, le truc, c'est pas spécialement de l'enseigner. C'est ce que vous nous dites, c'est que c'est un peu un système global qui aide à s'ouvrir plus l'esprit et à travailler plus avec ses mains, en fait.
Bah, en fait, il s'agit d'un mode de vie, quoi. C'est extrêmement difficile, par exemple pour un Parisien, puisqu'on est à Paris, de faire ses courses bio parce que ça coûte une fortune, parce qu'il faut avoir du temps pour chercher, il faut se prendre la tête pour savoir quel bon produit trouver. C'est un vrai sport, quoi. Faire ses courses, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit rapide, efficace. Et ça, c'est ce que l'agriculture urbaine doit mettre en place, doit monter et qui commence doucement, mais qui doit prendre plus d'ampleur.
Alors, il faut savoir aussi, on n'en a pas encore parlé, hein, que vous brassez de la bière également. Vous allez brasser, elle n'est peut-être pas encore brassée cette bière.
Si, on a fait quelques brassées.
Elle est déjà brassée, donc c'est nouveau, c'est une nouvelle activité.
C'est assez jeune, ouais. Bah, pour vous parler un peu de l'assaut, j'ai justement de ses valeurs et puis d'un peu du principe du système. C'est là, on part du jardin où on cultive des choses et toutes ces choses dans le jardin servent à quelque chose.
Ont un sens,
mais de manière plus simple, tout ce qu'on cultive dans le jardin va être transformé. Et nous, on veut, de la fourche à la fourchette, pouvoir montrer l'ensemble de la chaîne, de la graine à ce qu'on va mettre dans notre verre ou dans notre assiette ou sur notre peau, parce qu'on fait aussi des ateliers cosmétiques pour les hommes et les femmes que ça intéresse. Et là, la bière. Donc, on a fait pousser du houblon, qui est un des ingrédients de la bière. Mmh. Et pour faire de la bière, il faut de l'orge.
Oui.
Donc, on n'a pas fait 5 hectares de champs d'orge. On a acheté de l'orge à un producteur bio et on a brassé de la bière. Moi, je n'avais jamais brassé de bière avant ça.
C'est une découverte pour vous aussi.
Pour moi, c'était une découverte. On l'a fait avec un gars qui était très calé dessus et qui a animé l'atelier. Et donc, c'était super chouette. Il y a des gens qui sont venus, qui ont brassé de la bière de A à Z et qui ont attendu 2-3 semaines et puis qui sont venus chercher des bouteilles
et
de bière.
Et comment on brasse de la bière ?
Alors, j'ai pas vu l'ensemble du procédé, mais on a l'orge qui est une graine qu'on va faire germer doucement. Et qu'ensuite, mais là il y a plein de spécialistes de la bière qui vont me dire « Ah non, pas du tout. »
C'est du tout comme ça qu'on fait. Enfin.
En gros, on a besoin d'eau, d'orge. D'orge, après on peut mettre un peu des additifs comme du miel, du sucre, des fruits, des choses comme ça, et puis il faut du temps, de la technique, et puis de la chaleur et des fils, des épuisettes, des bouteilles, des levures,
c'est assez complexe, hein. C'est important.
C'est assez complexe.
Et la vraie question, c'est est-ce que vous l'avez goûté déjà? Vous me dites que vous en avez déjà un peu brassé, est-ce que vous l'avez déjà goûté?
Moi je l'ai pas goûté, il y en a qui l'ont goûté. Ils ont dit que c'était bon.
Est-ce qu'elle est bonne? Voilà, c'est ça la question.
Et si vous voulez la goûter...
Mais où est-ce qu'on pourra la boire?
Le mercredi 27, donc mercredi de la semaine prochaine, au Hop Up Bar, c'est dur à dire. C'est dans le 3e arrondissement à Paris, métro Temple. Il y aura une soirée où on va déguster cette bière. Et si ça vous a plu, le 30, c'est le samedi de la semaine prochaine, donc pas ce week-end, week-end prochain, on fait un atelier brassage de bière. Allez voir sur lasauge.fr, contactez-nous, inscrivez-nous, on est... suffisamment petit encore pour pouvoir répondre humainement à chaque mail. Donc si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas.
Venez. On va revenir un petit peu juste en 2015, à l'été dernier, parce que la Sauge avait répondu à un appel à projet pour ouvrir un jardin au niveau du métro Ourcq. C'est quelque chose dont vous n'étiez pas encore à la sauge à l'époque.
Moi, j'étais pas encore à la sauge et je pourrais pas vous répondre là-dessus. Hein.
D'accord.
Mais constamment aussi, une des activités de la sauge, c'est de trouver du terrain. Parce que pour faire de l'agriculture, il faut de la place. Donc, on a répondu à quelques projets des pariculteurs qui a été lancé par la mairie de Paris, donc qui met à disposition des espaces et qui fait travailler des équipes et les fait passer devant un concours. Il faut présenter un projet, il faut avoir un business plan, il faut avoir des idées, il faut avoir des gens qui ont du temps. Donc là, pour l'instant, c'est du bénévolat, mais le but du jeu, c'est quand même d'en faire une activité économique viable. Donc, ce qui va marcher, mais ce qui demande énormément d'énergie parce que c'est compliqué. C'est nouveau, mais c'est assez compliqué.
Eh bien, on va continuer de parler de ça et de cette volonté de changer les choses à Paris, de changer un petit peu les pratiques après une nouvelle pause musicale sur Radio Campus Paris.
Thank you.
Et c'était Ben Lucas Boyson, Nocturne 4 sur Radio Campus Paris 93.9.
Radio Camping Paris.
Et avant de revenir sur l'agriculture urbaine à Paris, une petite pause festival dans ce Radio Camping avec Simon qui est en direct du Fnac Live Festival, festival de musique entièrement gratuit qui se déroule sur le parvis de l'Hôtel de Ville jusqu'à samedi. Salut Simon, comment ça va ?
Salut, ça va et toi ?
Ça va très bien. Alors, t'es au festival depuis quand ? T'y étais hier ?
Ouais, absolument. Ouais. J'y suis allé hier et là, je suis arrivé il y a 25 minutes, du coup, pour l'artiste Awa. Et voilà quoi, du coup je pense faire la semaine parce que la programmation est vraiment cool, donc voilà, c'est bien.
Ouais, tu vas faire un peu tous les jours. Qu'est-ce que t'as pu voir un peu jusque là hier qui t'a un peu marqué?
Alors ce qui m'a surtout marqué, c'est la clôture de la soirée avec le groupe Jungle.
Ouais, beaucoup de monde en a parlé de la clôture de Jungle, hein. Tout le monde disait que c'était une performance assez folle.
Ouais, carrément, c'était assez ouf et c'était très très bien. Et après, bon, il y avait de gros artistes comme Jane. Mm-hmm. Voilà, bon, après on aime, on n'aime pas.
Jane, c'est un petit peu notre petit phénomène du moment en festival. On se la tape un peu partout, Jane.
Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est ça, exactement. Après, elle a su mettre l'ambiance, donc non, c'était pas mal. Et les premières parties, par contre, étaient vraiment chouettes. Il y avait bon voyage organisation, un groupe émergent.
Qui fait de la très très bonne musique. Qui fait de la très très bonne musique, Bon Voyage Organisation. Et est-ce que tu as pu voir un peu Feu Chatterton ? Parce que j'ai fait une chronique sur le Fnac Live hier, dans laquelle je disais que Feu Chatterton en extérieur, en festival, je trouvais que ça fonctionnait un peu moins bien qu'en salle. Est-ce que tu as pu les voir ?
Ouais. Écoute, je les ai vus et c'est vrai que moi aussi, j'étais un peu déçu. Moi, je les avais jamais vus avant, ni en intérieur, ni dans un autre festival. J'ai surtout écouté l'album et les chansons en studio. Et c'est vrai que, bon, ceci dit, non, ça a bien envoyé sur les fins de morceaux, c'est chouette. Ils ont réussi à faire bouger un peu tout le monde. Mais c'est vrai que dans la programmation, c'était... c'était sympa, mais c'était pas oufissime, quoi, voilà.
Et alors du coup là, il y a Awa, ça va commencer, c'est ça, ou ça c'est déjà commencé?
C'est déjà commencé et écoute, d'ici à peine quelques minutes, normalement il y a O2N.
Ouais, tu vas filer à O2N après.
Voilà, c'est ça, ouais. Et en fait, c'est une soirée spéciale 20 ans du label Tôt ou Tard.
Oui, c'est vrai, c'est l'anniversaire du label Tôt ou Tard, qui est un très grand label de musique française.
Yes. Et du coup, c'est ce soir, il y a assez la plupart des, enfin tous les artistes sont signés si tôt ou tard, sauf Tilacine, l'artiste électro qui va clôturer en fait la soirée. Tous les artistes, que ce soit pour la soirée sur le parvis de l'Hôtel de Ville, que aussi dans le salon, parce qu'il y a des showcases avec notamment Vincent Delerme ce soir qui ont lieu en fait dans le salon de l'Hôtel de Ville. Et ça, c'est réservé pour des gens qui sont des amis des artistes, la presse ou alors des personnes invitées et qui ont demandé des places un peu plus tôt dans l'année. Quoi. Voilà.
D'accord. Donc là, du coup, ce soir, après O2N, si je dis pas de bêtises, tu vas devoir te taper Vianney.
Ouais.
Est-ce que tu es prêt à avoir Pala dans la tête toute la soirée?
Ouais, je sais pas si je suis vraiment prêt à avoir Pala et du coup, peut-être qu'à ce moment-là, je serai pas là, tu vois.
c'est assez logique. J'aimerais te demander pour finir. Comme toi, tu es sur place, j'ai envie de te parler un petit peu de la sécurité autour de l'Hôtel de Ville, parce que c'était une des questions après ce qui s'est passé à Nice. Décris-nous un peu comment ça se passe. On parle d'un genre de fan zone pour un concert.
Ouais.
Quoi.
Ouais. Et je dois t'avouer que honnêtement, on se sent bien. Tu peux apprécier vraiment les concerts en sécurité. En fait, moi, j'ai pas eu la chance d'aller au festival des années précédentes, mais il semblerait que cette année, en fait, ils aient bloqué, le côté de la place de l'Hôtel de Ville. Et du coup, l'entrée, elle se fait uniquement face à l'Hôtel de Ville. Et là, tu as déjà un contrôle de sécurité par les CRS. Mmh. Ensuite, tu as une première fouille par le staff de la sécurité. Et ensuite, tu as une deuxième... tu passes sous un portique, c'est pas vraiment un portique, mais ils ont un magnétomètre à la main et voilà, ils regardent. Donc t'as vraiment trois étapes à passer et honnêtement au niveau sécurité on se sent bien. Mais ils ont renforcé le dispositif suite aux attentats, quoi, voilà.
D'accord, et bien écoute, merci à toi Simon, on te retient pas plus longtemps, va kiffer ta soirée. Merci beaucoup pour ton coup de fil, merci. Et puis passe un bon festival. Bonne soirée.
Ouais, merci, bonne soirée, ciao.
Vous écoutez Radio Camping Paris sur le 93.9.
Et voilà, on va revenir à notre sujet du jour maintenant, l'agriculture urbaine, avec Augustin Lobou de l'association La Sauge. Et Anna qui avait une question pour Augustin.
Oui, alors vous faites de l'agriculture donc dans la ville. Est-ce que c'est sain de manger des aliments venant de la terre en ville où l'air est pollué?
C'est une bonne question. En fait, ça dépend de ton sol, ça dépend de ton air. Donc, par exemple, la tomate, ça prend beaucoup la pollution dans ses feuilles. Mmh. Si tu manges une ou deux tomates dans l'été qui ont poussé en ville, ça va. Si tu en manges des kilos, je pense que ça ira pas. Maintenant, il faut aussi se poser la question, toujours en sachant d'où vient l'alimentation. Ok, la ville est polluée, d'accord, mais comment sont cultivées les tomates qu'on mange qui viennent des serres d'Espagne ou d'ailleurs. Donc c'est intéressant que tu poses la question parce que ça fait partie de la démarche aussi, c'est de savoir ce qu'on mange.
Ouais, et du coup, qu'est-ce qu'elle apporte l'agriculture urbaine par rapport à l'agriculture faite à la campagne ?
L'agriculture urbaine, elle doit apporter du lien social, elle doit apporter un rapprochement à la terre qui est quand même quelque chose d'essentiel quand on est des humains. Elle doit apporter certainement une façon différente de voir le collectif et le vivre ensemble parce qu'il y a une question que je me pose assez souvent, c'est finalement, quel est le but commun de... Bon, alors c'est un peu large, hein, c'est un peu philosophique, je vous l'accorde, mais quel est le but commun de tous les humains qui habitent sur Terre, si ce n'est que soit de survivre, hein, c'est quand même relativement peu intéressant. Et désolé pour tous ceux pour qui c'est le cas, mais je veux dire, il y a la conquête de l'espace, c'est sympa, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit projet collectif à faire quelque chose comme ça? Donc l'agriculture urbaine, à mon avis, c'est une des clés qui doit interpeller les gens, et puis ça marche pas, au moins faire du débat, soulever le tapis, secouer la poussière un peu, que les gens toussent un coup, et puis voilà quoi, qu'il se passe quelque chose quoi.
Est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà eu l'occasion d'aller pratiquer l'agriculture en dehors de la ville, à la campagne ?
Oui.
Est-ce que ça vous manque ?
Est-ce que ça me manque ? En fait, ça dépend comment c'est fait. Moi, j'étais souvent en Bretagne, et assez jeune, dès 13-14 ans, je plantais les choux à la chaîne, sur un tracteur, 12 heures par jour, avec une machine. Puis j'ai ramassé des patates, j'ai nettoyé des champs, je faisais un peu de maraîchage aussi, de la clôture, enfin des... Voilà, des vrais travaux agricoles durs, quoi, au soleil et tout. Et puis, j'aime bien travailler dehors, mais après, travailler comme un forcené comme ça, non. Par contre, trouver une espèce de solution un peu complète où, par exemple, au sein d'un immeuble, tout le monde va mettre ses déchets dans un bac spécial qui va être ramassé pour être distribué pour les agriculteurs qui sont en première, deuxième, troisième couronne, qui, eux, vont ensuite renvoyer leurs légumes en centre-ville pour qu'ils soient consommés. Bah là, c'est peut-être plus logique parce qu'il y a ces gagnants-gagnants pour ceux qui consomment, pour ceux qui produisent. Ça fait du taf pour ceux qui organisent le circuit. Ça évite de court-circuiter les marchés mondiaux et de faire descendre, je sais pas, le prix du maïs ou du céréal pour les pays pauvres et qui n'en sortent pas alors que c'est les gars qui travaillent le plus. Ce qui est quand même hallucinant, c'est de voir que sur Terre, les gens les plus pauvres, c'est les gens qui donnent à manger aux autres. C'est les paysans, c'est les plus pauvres. Donc là, il y a un problème, quoi, clairement. Alors après, on s'en fout, on ferme les yeux ou alors on s'y intéresse, on ouvre les yeux, on fait quelque chose. Là, c'est à chacun de s'engager ou pas.
Parce que là, vous nous l'expliquez, tout ce circuit qu'on a envie de mettre en place là, quand on l'entend. Mais on a l'impression que les gens, ils ont besoin qu'on leur explique justement pour comprendre et donner un sens à toutes leurs actions. Parce que quand on est chez soi et qu'on me dit, bah ouais, fais ci, fais ça, fais le tri, mets tes ordures de côté, etc. Si on ne comprend pas à quoi ça sert, on a peut-être moins envie de le faire aussi. Est-ce qu'on ne l'explique peut-être pas assez ?
Ouais, je pense qu'il y a un vrai problème de vulgarisation autour de tout ça. Par exemple, il y a un exemple super intéressant que j'ai étudié cette année. C'est la déchetterie qui est située entre le 15e arrondissement et ici les Moulineaux. Il a été construit une espèce d'immense cuve qui descend en dessous du niveau de la Seine et toutes les poubelles marron que vous balancez dehors, ça va où ? Ça va là, c'est incinéré. Donc ça veut dire que c'est brûlé et que le feu qui est dégagé de ces ordures permet de faire de l'énergie, mais pollue énormément et les ressources ne sont pas renouvelées. Et on pourrait changer le système des poubelles à Paris, sauf que pour amortir l'investissement qui a été fait sur cette déchetterie, il faut encore alimenter, il faut de la matière première pour ça, donc c'est les poubelles marron, donc le système ne change pas. En fait,
c'est un cycle malsain.
En fait, il faut que les gens qui ont le pouvoir et qui peuvent, au-delà des petites initiatives citoyennes ou des petites entreprises ou des associations comme la Sauge qui ont leur poids mais qui ne sont pas très puissants finalement, il faut que le cœur politique à qui on a confié des responsabilités trouve un angle d'attaque. En fait, c'est aussi pour ça qu'il faut rendre l'agriculture sexy, parce que quand ça sera bien sexy, les politiques vont s'en emparer ils vont se dire ah bah super, ça marche, allez tac, on le fait. Et puis là ils vont embarquer les gens et puis ça va faire effet boule de neige et ça va marcher quoi. Il y a qu'à voir. Il y a des exemples mondiaux où ça a marché, mais ça a été même forcé. Je prends l'exemple de la ville de Détroit qui a eu une décroissance
incroyable.
Le système capitaliste là-bas est tombé. Pourquoi ? Parce que la ville marchait sur des usines qui fabriquaient des pièces de moteur et autres. Ces usines se sont délocalisées. Elles sont parties à l'autre bout du monde pour des raisons de coût. Donc on allait faire travailler notre main d'œuvre, voilà, on part faire l'économie. Et donc du coup les gens se sont retrouvés au chaume du, ils sont tous barrés, ils avaient rien à manger. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils avaient de la place, ils ont après cultivé, ils ont fait des champs dans la ville. Et ça c'est pas vraiment de l'agriculture urbaine, c'est de l'agriculture tout court. C'est juste que la ville change de face.
Mais là ils ont été contraints les gens à Détroit parce qu'ils n'avaient pas d'autres solutions. Ce qu'il faudrait c'est qu'on arrive à déclencher ça mais sans arriver à telles extrémités.
Exactement, inspirons-nous de ce qui existe pour anticiper les choses.
Et pour rendre ça sexy justement, est-ce qu'on peut dire que ça surfe sur la tendance du do it yourself ?
Bah complètement. Déjà il y a l'idée de les déchets des uns sont les ressources premières des autres et ça marche dans la nature. Le petit oiseau qui va manger entre les dents du crocodile, voilà, et pourtant il se fait pas croquer, hein, et il a à manger. Donc bien sûr, une grande partie du mobilier qu'on fabrique et qui est durable, hein, qui peut, s'il est bien construit, marcher 5-10 ans et un peu entretenu, c'est des palettes de récupération, du bois de récupération, des armoires, des choses qu'on trouve, quoi.
Parce qu'on a l'impression que ce do-it-yourself, ça fait 2-3 ans qu'on en parle. On a même utilisé une expression spéciale pour ça, tandis qu'un téléphone sonne et que je ne sais pas si on l'a entendu à l'antenne. Et donc, on a inventé même une expression pour ça, do-it-yourself, derrière laquelle on met plein de choses. Mais est-ce que vous le sentez, vous, à la sauge, des gens qui viennent vous voir? Augustin me montre les cloques qu'il a sur les mains et la corne.
Non,
la corne qu'il a sur les mains. Vous dites, des gens viennent pour vous dire, bah ouais, moi j'ai juste envie de faire des choses avec mes mains, j'ai envie de me réapproprier un peu ce que je fais.
Mais bien sûr, on voit une partie du public qui vient à la sauge, c'est des cadres ou des gens qui ont des boulots qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, en fait, qui sont contents de se plonger dans une activité manuelle, et ça rebondit à ce que je vous disais sur le modèle anglo-saxon plus tôt. Pas parce que faire quelque chose avec ses mains, au moins on pense pas à autre chose, quoi. Et puis c'est concret, on fabrique quelque chose, on répare quelque chose, on organise les choses. Et puis voilà, le travail manuel, c'est quand même quelque chose de... Enfin, c'est bien de savoir faire des choses avec ses mains, quoi, de savoir survivre un peu.
Vous en faites pas, le téléphone ressonne. Tandis qu'il est en train de... Augustin est en train de couper son téléphone. Vous êtes étudiant ? Et vous êtes engagé dans l'association avant de faire un stage qui bénéficie à vos études, c'est bien ça ?
Ouais, c'est ça.
Y a beaucoup de gens comme vous qui sont étudiants au sein de la SAUGE, qui ont vu dans la SAUGE une prolongation de ce qu'ils peuvent faire dans leur parcours ?
Bah, les créateurs de l'association, c'est les anciens étudiants qui ont un peu un profil d'auto-entrepreneur et c'est des gars dynamiques, donc voilà, ils ont étudié. On a fait participer sur des événements des gens qui d'un peu de tous bords. Alors, c'est surtout des jeunes que ça intéresse. Donc, il y avait des étudiants, mais il y avait aussi des chômeurs, des gens qui ont du temps aussi. Bah, l'agriculture urbaine, il faut avoir du temps. Mm-hmm. Ça prend du temps de faire pousser les plantes. Et tous les stagiaires là, qui sont là avec moi cet été sont comme moi étudiants.
Et du coup, cet engagement étudiant, est-ce que c'est quelque chose que l'asso, j'aimerais peut-être développer ? Ou est-ce que plus généralement, les associations ont besoin de plus d'étudiants dans leur rang pour fonctionner ? Est-ce que l'engagement étudiant est suffisant à la SAUGE, par exemple ? Est-ce que vous aimeriez travailler peut-être, par exemple, plus avec des universités ? Est-ce que vous faites des études d'urbanisme,
c'est ça ?
Et travailler, par exemple, avec des universités qui proposent des études d'urbanisme pour monter des projets, par exemple, ou peut-être que vous le faites déjà ?
La SAUGE, c'est une des façons. Travailler à la SAUGE, c'est un des moyens de le faire. Après, il y a des au sein des universités, il y a des comités qui s'organisent spontanément, quoi. Mais moi, je pense que c'est peut-être engagé dans le sens où c'est différent. Mais engagé, ça veut juste dire qu'on pratique
qu'on
son activité,
son temps, en fait.
Qu'on donne de son temps. On peut très bien être engagé en travaillant, je sais pas, moi, en travaillant dans une épicerie ou au McDo ou n'importe où. Ce qui compte juste, c'est de faire quelque chose en laquelle on croit, quoi.
D'accord, et bien écoutez, merci à vous Augustin Lobu d'être venu nous présenter l'association La SAUGE sur notre plateau. On rappelle votre programme à court terme, donc samedi je crois qu'il y a...
On a mercredi prochain, le 27, une dégustation de bière qui a été brassée à Paris au Hop Up Bar Paris 3, métro Temple. Et si ça vous a plu, le samedi suivant, le 30, le brassage de la bière, un atelier auquel vous pouvez participer. Et si vous cherchez des informations sur la chose,
sur la sauge, page Facebook,
page Facebook ou site internet www.lasauge.fr. La Sauge, la société d'agriculture urbaine généreuse et engagée, on vous attend.
Eh bien écoutez, merci à vous, on vous quitte en musique et on se retrouve juste après sur Radio Camping pour notre fiction de l'été. Et on vient de s'écouter Aphex Twin sur Radio Campus, Campus Paris, Circlon 3.
Radio Camping Paris.
Et oui, un petit mélange entre Radio Campus et Radio Camping, je m'y perds. Et c'est maintenant l'heure de retrouver, comme tous les jours, notre fiction de l'été, les aventures de l'hôpital Bretèche.
C'est vous qui êtes responsable des... enfants qu'on vient d'amener ?
Oui, docteur, c'est moi.
Mais qu'est-ce que vous leur avez donné à manger ?
Ils se nourrissent de racines et de plantes qu'ils cultivent eux-mêmes, toutes inoffensives.
Mais enfin, ils en sont à leur troisième lavage d'estomac !
Mais ça fait partie de l'apprentissage que de dissocier les bonnes des mauvaises racines.
Mais vous êtes malade, vous les avez empoisonnés !
Mais non, nous leur apprenons à cultiver des potagers dans un milieu urbain. Ils doivent connaître la nature.
Et lui, il est pas empoisonné ?
Non, moi je peux pas aller cultiver de potager à cause de mes jambes.
Bah qu'est-ce qu'elles ont tes jambes ?
Je les ai perdues l'an dernier en plantant des fraisiers sur les rails de la petite couronne. De la petite ceinture, pardon.
Oui, c'est vrai, ce petit distrait les a plantés sur les rails du RERB.
Mais vous êtes dangereux ! Où est ma fille ?
Ah bonjour madame Broussin.
La ferme, dangereux psychopathe.
Calmez-vous madame.
Ce taré a empoisonné ma fille pour la deuxième fois. Je vais vous traîner devant les tribunaux.
Tenez, mâchez plutôt ces orties. Ça va vous détendre.
Vous pouvez-vous les foutre au cul ? Ce malade a failli tuer ma famille, docteur.
Comment ça ?
Il a appris à ma fille à faire une omelette aux champignons.
Mais c'est très bon, ça.
Des champignons qu'elle a trouvés sous le bac de douche, connard.
Mais ça fait partie de l'apprentissage. Nous sommes entourés de végétaux, même en ville. Votre fille fait des progrès.
Même les rats qu'on trouve dans les égouts, il faut les manger. Ça évite de tuer les vaches.
Mais c'est dégueulasse.
C'est bien, Augustin.
Arrêtez de l'encourager. Je vais faire dissoudre votre association et je vais veiller à ce que vos idées de hippie attardés ne nuisent plus à personne.
La madame devrait manger un gâteau qui fait rire.
Un space cake, Augustin. On appelle ça un space cake.
Parce qu'en plus, vous les droguez.
Avec du cannabis qu'ils cultivent eux-mêmes. Ça évite de les exposer à toutes ces mauvaises drogues qui circulent à Paris.
Vous êtes complètement fou.
Non, je suis un pédagogue.
Un pédagogue qui va finir en tôle. En sortant d'ici, j'appelle la police.
Beaucoup trop de mauvaises ondes ici. Viens, Augustin, j'ai vu des géraniums devant l'entrée. On va faire une salade. Et voilà, c'était un nouvel épisode de l'Hôpital Bretèche, notre saga de l'été, écrite par le magnifique Maxime pour vous tous les jours sur Radio Camping 93.9. Cette émission touche doucement à sa fin. Il est temps pour moi de vous rappeler que demain, Radio Camping sera bien sûr là en direct du Petit Bain. Maureen recevra les membres du Petit Bain pour parler de la Grande Colo et l'association des cuistots migrateurs. C'est l'occasion aussi d'avoir une pensée pour moi pour Maureen qui, au lieu d'être autour, avec nous autour de cette table, a choisi de s'absenter pour assister au concert de Beyoncé ce soir. Amuse-toi bien, Maureen. Et tout de suite sur Radio Campus, c'est l'heure de Yumi. Comment ça va, Yumi ?
Ça va super bien. Et ce soir dans Yumi, après cette space fiction que vous nous avez offert, on va aller cultiver de la marijuana en Jamaïque. On va écouter du reggae dans Yumi. Qui lui crut un jour, c'est arrivé.
C'est arrivé un jour, ça donne envie de venir.
De la country, t'imagines, de la country et du reggae dans une seule émission qui d'habitude dégouline le punk et le garage. Donc c'est à ne pas rater, ça fait 4 ans qu'on attend ce moment où on passera du reggae dans Yumi.
C'est l'été, c'est l'occasion d'avoir un peu de légèreté. Il est l'heure de nous quitter, chers auditeurs. Un grand merci à Elsa qui prépare cette émission en coulisses chaque jour. À toi, Anna, de m'avoir accompagné aujourd'hui. À Maxime, ainsi qu'à tous ceux qui me conseillent chaque jour pour préparer la présentation de cette émission. N'oubliez pas, Radio Camping revient demain, même heure, sur le 93.9 ou sur notre site internet radiocampusparis.org. Bonne soirée à vous tous et à bientôt.